Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Madam, your car's this way. It started like a game of love. But when a man asks his wife to do something which outrages every moral standard, who knows what the consequences will be?
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à différents portraits de femmes dans le cinéma. On va aller du cinéma d'auteur au cinéma populaire, au cinéma bis, hein, pour aborder la mise en scène de personnages féminins dans le cinéma. Alors, on débutera par un film de 1969 qui s'appelle La Vénus en fourrure, un film de Massimo Dallamano. À ce sujet, d'ailleurs, on ira à la rencontre d'Emmanuel Le Gagne. Emmanuel Le Gagne qui est intervenant dans un bonus avec Sébastien Guéraud, hein, un bonus dans lequel on présente le film et il vous en dira plus sur ce film, sur Massimo Dallamano. Enfin, on verra tout ça avec lui par le biais d'un appel téléphonique vers la belle ville de Montpellier. On causera également de L'Effronté de Claude Miller, qui est sorti il y a déjà quelques temps, hein, chez Rémini Édition, film de 85, le film qui avait révélé Charlotte Gainsbourg. On évoquera également un film à venir chez Bubble Pop, le film d'Alex Kechichian, un film qui avait fait un peu scandale à son époque, hein, un film de 1991 s'appelle In Bed with Madonna. Enfin, en tout cas, c'était le titre français. Vous verrez qu'il y a un autre titre américain. En parlant de film américain, grand film qui met en avant des personnages de femmes, Thelma et Louise de Ridley Scott, film de 91 également, et qui sort là chez BQHL. Et donc on voulait faire aussi un focus sur ce film qui a marqué quand même nombre de générations de cinéphiles. On ira faire un tour après du côté du cinéma indépendant américain grâce à nos amis d'Extra Lucide Film pour vous parler d'un film de Joe Begos, un film de 2019, injustement méconnu, un film qui s'appelle Bliss. Et puis on terminera par un film français, un thriller qui s'appelle Drone, un film de Simon Bouisson, un film très récent, un film de 2024 qui sort là chez Blackout. L'équipe de Culture Prohibée remercie Karine Bach, Sandrine Hiver, Rania Griffet, Kevin Boissezon, Stéphane Chevalier, Thierry Lopez, Jean-Pierre Vasseur, Patrice Véry et François Villa pour leur aide sur cette émission. Pour causer portrait de femme, je suis aujourd'hui accompagné d'un jeune homme, hein, d'une bête noire de Compiègne, un certain Damien Demey, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio pour causer de portraits de femmes, lui qui dit toujours bonjour à toutes en début de chaque émission. Il ne pouvait en être autrement. Thomas Roland, il est avec nous. Oui, le loup-garou Picard qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Salut Thomas.
Salut Damien, salut Jérôme et bien évidemment salut à toutes.
Mon cher Damien, sais-tu que 69 était une année érotique, comme le chantait le fameux Serge Gainsbourg? Eh bien, c'est en cette année-là, c'est une autre chanson, ça, c'est beaucoup moins dans mon panthéon personnel que Gainsbourg, sort La Vénus en fourrure de Massimo Dallamano. Alors, le film connaîtra d'ailleurs une autre sortie sous le titre Les Malizie di Venere, pour surfer
sur la gloire de la série des Malizia de Salvatore Samperi qui sont disponibles chez Sidonis Calista. Film qui mettait en vedette Laurent Antonelli, la même actrice que dans La Vénus en fourrure. D'ailleurs, c'est une adaptation d'un livre de Sacha Armazzoc qui s'appelle en vérité La Vénus à la fourrure. Sacha Armazzoc qui partage, hein, c'est évoqué d'ailleurs dans les bonus par Emmanuel Le Gagne et Sébastien Guéraud, qui partage la particularité avec le Marquis de Sade d'avoir donné son nom à des pratiques sexuelles, alors que c'était plutôt, alors Sacha Armazzoc, on y reviendra avec Emmanuel Le Gagne, c'était plutôt un intellectuel, un théoricien, un auteur aussi, hein, évidemment, mais c'est plus complexe que ça, sachant que La Vénus à la fourrure, en plus, c'est plutôt quelque chose d'autobiographique pour lui, qui raconte ses propres fétichismes à travers un dialogue. Donc on n'est pas du tout dans la même chose que le film, là, qui est vraiment une remise au goût du jour de ce livre, La Vénus en fourrure. Ça se passe à la fin des années 60. Alors, le film, je vous ai dit tout à l'heure, il était ressorti avec des scènes de procès ajoutées, parce que c'est vrai que le film a eu beaucoup de démêlés avec la censure. Ça aussi, on en parlera avec Emmanuel Le Gagne, mais le film a été censuré, il est sorti vraiment beaucoup plus tard, quelques années après sa date initiale de production, et on y avait ajouté des scènes, d'ailleurs pas tournées par Dallamano. Dallamano, très grand metteur en scène, on en reparlera aussi avec Emmanuel Le Gagne, parce que c'est un de mes metteurs en scène méconnus, préférés, voilà, que je défends toujours dès que je peux. Et là, il nous présente donc cette adaptation, enfin c'est plus ou moins inspiré de La Vénus à la fourrure. On retrouve bien le personnage de Séverin, qui est d'ailleurs joué par un acteur assez fade, hein, Régis Vallée. C'est un physique, hein, on va dire qu'il est bien gaulé, quoi, hein, c'est un grand balèze, mais c'est un acteur assez fade et qui surtout face à lui va avoir la révélation du film, hein, qui fera après la carrière que l'on sait, Laurent Antonelli, qui va être justement sa Vénus à la fourrure. C'est le premier rôle qui la met en vedette, parce qu'elle a déjà eu des petits rôles de fait de sa plastique irréprochable. Et là, en fait, c'est très drôle de voir dans les bonus Alida Capellini, qui était décoratrice du film, qui décrit, en fait, elle est même émue quand elle relate sa rencontre, parce que quand il faisait les castings, quand elle relate sa rencontre avec Laurent Antonelli, et elle explique qu'elle avait l'impression d'avoir une divinité, en fait, tellement elle était belle, et qu'elle avait l'impression d'être face à une sorte de beauté absolue, une sorte d'idéal absolu, voilà. Et elle dit même à un moment, surtout de la taille jusqu'aux cheveux, quoi. Voilà, c'est assez drôle. C'est parce qu'elle devait l'habiller. Elle dit que c'était un vrai bonheur d'habiller cette femme, évidemment. Ça, j'en doute pas une seconde. Même si dans le film, elle est beaucoup déshabillée, quand même. Voilà. Mais c'est marrant parce que ce film, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis dans Portrait de femme. Parce que dans cette version, alors cette version, elle est très, c'est un film mineur, hein, dans la carrière de Dallamano. C'est un film d'une beauté plastique sidérante, hein, la photo de Sergio Dofizi est magnifique. Alors évidemment, avec un directeur de la photo de l'acabit de Dallamano en tant que réalisateur, on imagine bien qu'il a mis son grain de sel, hein, dans la beauté plastique du film. Et puis oui, cette adaptation, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle va révéler effectivement Laurent Antonelli. Alors l'histoire est simple, c'est vrai, c'est un auteur en manque d'inspiration et il va se retrouver dans une sorte de village vacances comme ça en Autriche. Et puis il va avoir comme voisine Laurent Antonelli qui va épier à travers un trou dans le mur et qui bourre entre deux rondins de bois, je crois. Et la scopophilie va y aller à fond. Et elle semble prendre son pied en enfilant nu une fourrure. Et lui, il voit ça et ça lui rappelle. C'est une réminiscence de son passé par rapport à la relation qu'il avait avec sa nounou, où il y avait un mélange. En fait, il avait surpris sa nounou en train de faire l'amour et elle l'avait frappé. Et elle l'avait après consolée alors qu'elle était nue. Et elle portait fourrure, tout ça. Enfin bref, du coup, tout ça va créer chez lui une sorte de fétichisme et qui va faire que lui... Et c'est là où le film est vraiment assez passionnant, comme le livre. En fait, il se veut victime, il veut être sadisé. Et en même temps, c'est quand même lui qui veut mener le jeu. Et il va être soumis à tout type de vilainie qui va lui-même s'imposer. Mais petit à petit, ça va désagréger le couple, parce qu'ils vont finir par se mettre en couple, se marier, tout ça. Le couple qu'il va former avec Laurent Antonelli. Et à partir de là, on on a quand même, bon, moi je le dis, c'est vraiment la révélation d'une actrice, même si, évidemment, ne cherchez pas, c'est pas la révélation d'Adjani, c'est pas la révélation d'Isabelle Huppert, non, mais c'est la révélation d'un vrai tempérament d'actrice. Elle est très très, surtout elle écrase de son talent son autre partenaire de jeu, et ça se confirmera dans la suite de sa carrière, Laura Antonelli, qui n'est pas qu'une belle femme, qui est aussi en plus une actrice assez intéressante, pas forcément énormément exploitée, mais qui a eu quand même, qui était vraiment, on l'oublie aujourd'hui, c'était une star, hein, c'était vraiment une star, qui est morte dans le désœuvrement d'ailleurs il y a quelques années, mais c'était une super star, vraiment internationale, qui a fait tourner la tête d'ailleurs de quelques-uns, dont Belmondo, hein, c'était vraiment une superstar. Et là, dans le film, eh bien, on peut voir, comment dire, quelques scènes sont très marquantes. On voit la maîtrise de la mise en scène de Dallamano. En particulier, il y a quand même une scène, une première scène assez démente, je trouve, où Dallamano brise le quatrième mur de manière très perverse, puisque le spectateur, donc qui est Séverin, se fait brutaliser via des coups assénés à la caméra. Donc c'est une vision assez singulière. Et puis c'est un hymne érotique, effectivement, à la gloire de Laurent Antonelli, hein, qui se déchaîne, foué à la main, dans des scènes très sensuelles. Voilà. Alors on sent que le film a été fait, même si le film brasse des thématiques très Dallamano, hein, c'est-à-dire la scopophilie, tout ça, c'est des trucs qui vont revenir dans tous ses films, même quand il fait des polars et tout. Il y a toujours des scènes de voyeurisme, il y a toujours... voilà. Et par contre, le film, effectivement, est le haut du panier vraiment de la production érotique italienne, ne serait-ce que par sa qualité esthétique et sa mise en scène. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est d'en parler donc avec Emmanuel Legagne qui signe avec Sébastien Guéraud un bonus de 3/4 dans lequel il présente le film en détail. Et donc je vous invite tout de suite, chers auditrices et auditeurs de Culture Prohibée, à écouter Emmanuel Legagne.
Massimo Dallamano, hein, il commence à la mise en scène assez tard, en fin de compte, hein, puisqu'il a déjà près de 50 ans quand il signe son premier film, qui est un western, Bandidos, d'ailleurs le seul film dont il signera la photo. C'est-à-dire que pour les autres films, ce n'est pas lui, en fait. Hein. Et évidemment, c'est un réalisateur très intéressant qui tourne donc entre 67 et 76. En 76, il décède à 67 ans d'un accident de voiture. Et il ne réalise finalement que 10 longs métrages, et on peut ajouter un 11e avec un documentaire qu'il a tourné en co-réalisation en 59, qui s'appelle Tierra Magica. Mais voilà, c'est 10 films dans lesquels on retrouve quand même des thématiques, hein, d'un cinéaste qui est à la fois quelqu'un d'un peu moralisateur, mais qui en même temps aborde des sujets de très sociétaux. C'est un peu étrange. Il est un peu comme, je dirais, quelqu'un comme Aldo Dado, un côté plus puritain, mais je trouve que ça s'en rapproche. Donc avec des films comme les plus connus, c'est évidemment Mais qu'avez-vous fait à Solange, et puis La Lame Infernale. Mais tous ces films, quel que soit le genre qu'il aborde, méritent quand même d'être mérite un intérêt, en fait.
Alors, Tierra Magica, bon, il y a quelques scènes qui circulent sur le net, mais c'est vrai que c'est difficile de savoir. Ça semble être une sorte de Mondo, mais on ne sait pas trop. Mais on est sûr de rien. Par contre, effectivement, tu l'as rappelé, il y a la Schoolgirls in Peril Trilogy, bon, qui ne l'a pas fini, c'est un Negri qui l'a fini, mais. Et puis, il y a tous ces films où il y a des obsessions, en particulier avec les relations entre les femmes et les hommes qui sont traitées d'une certaine manière, y compris avec les enfants et le père. Enfin, il y a des choses qu'on retrouve dans pas mal de films. Et puis il y a, pour moi, c'est vrai que c'est un esthète, mais en dehors même de l'aspect esthétique de ces films, on y reviendra tout à l'heure, c'est aussi un type, tu l'as dit toi-même, assez étrange, parce qu'on peut avoir une lecture de ces films très puritaine, mais aussi très émancipatrice.
réalisatrice. Bon, si on prend Solange, par exemple, est-ce que Mec, avez-vous fait à Solange, c'est un film qui dénonce le fait que l'avortement est interdit et qu'on en arrive à des situations cauchemardesques, ou est-ce que c'est un film qui dénonce une jeunesse dépravée et puis que, comme le dit la faiseuse d'ange dans le film, la victime mérite ce qu'elle subit. On ne sait pas trop, en fait. Il flatte un peu le spectateur dans tous les sens du poil. C'est très étonnant, mais on est quand même frappé par un esthétisme particulier.
Mais parce que je pense que comme c'est un cinéaste d'exploitation, il se retrouve, je pense, un peu des deux côtés. À la fois, il regarde par le trou de la serrure, il a un côté, on va dire, un peu voyeur. Hein. Et en même temps, on a l'impression qu'il, des fois, parfois, il s'auto-flagelle de ce voyeurisme. Et donc, il est toujours, parfois, dans quelque chose qui peut être très progressiste. Hein. C'est particulièrement flagrant dans, je pense, même dans Le Tueur frappe trois fois, hein, qui est un film excellent, où il va être très virulent vis-à-vis d'une certaine bourgeoisie décadente qui profite un peu de la jeunesse, ce qu'on retrouve chez Aldo Lado. Et puis, d'un autre côté, il a un discours un peu moralisateur que, finalement, cette jeunesse, elle l'aurait peut-être mérité, quoi. Et ça, on le retrouve un petit peu dans La Lame Infernale, où elle serait un peu décadente, elle serait un peu atteinte par un vice. Et c'est assez marrant, parce qu'on est toujours dans cet entre-deux chez lui. Et même dans une... Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, un film moins connu, hein, plus léger, qui s'appelle Annie ou la fin de l'innocence, dans lequel il adopte un point de vue pour l'époque, où en pleine libération sexuelle, hein, il fait un faux remake d'Emmanuel, où il a un discours qui rejoindrait même le dernier Emmanuel sorti en date l'an dernier. C'est-à-dire que, alors il s'en prend toujours dedans aux riches bourgeois, mais ce qui est explicite, c'est que bah, Annie, elle va reprendre qui est un peu une sorte d'Emmanuel, hein. Elle finit dans un couvent et puis elle comprend un peu le sens de son existence, de sa dépravation, et elle décide de reprendre en main sa vie, en fait. Et à la fois, c'est très féministe et en même temps, c'est un peu moralisateur. Voilà. C'est assez étrange. Et c'est assez raccord avec, je pense, des fois, avec la pensée contemporaine.
Alors, à part Tierra Magica, que je pense personne n'a vu dans son intégralité, dont j'ai que des bribes, j'ai bien vu tous les films de Dan Lamano. En fait, je suis très fan de Dan Lamano. Voilà, c'est un cinéaste qui me passionne.
Oui, moi aussi, voilà.
Voilà. Et j'adore Dan Lamano. Et justement, je suis content que Artus sorte ce film-là. Alors, avant peut-être de parler du film, un dernier point aussi que je trouve intéressant chez Dan Lamano. Tu le disais à l'instant, hein, avec Annie ou la fin de l'innocence, il anticipe quelque part des points de vue qui viendront bien plus tard, mais il fait partie de ces gens. Par exemple, si on prend... Alors, Bandidos, c'est un peu à part qu'il signe Max Dillmann, mais si on prend Le Tueur frappe trois fois, par exemple, Showdown, c'est un film qui... Argento n'est pas encore là. Donc, et il amène le giallo ailleurs. Il confronte le giallo. Il y a John Mills dans le film en plus qui donne un aspect particulier au film, mais il amène le giallo sur une sorte de mélodrame amoureux avec un triangle amoureux, et il livre très vite la clé de l'énigme, hein, on sait très vite qui est le tueur. Je trouve qu'il a une façon de... Il est très moderne et à chaque fois il anticipe pas mal, je trouve. C'est pareil, même dans son giallo et tout, il anticipe pas mal sur ce qui va se passer dans les années à venir, quoi. Il est en avance à chaque fois.
Oui, et puis Le Tueur frappe trois fois, tu parles de cette dimension un peu mélo, mais c'est aussi une forme de giallo ou une forme de film de machination proto-giallo de l'époque, mais avec le film, on va dire, un peu de gangster, parce que de mafia, puisqu'il est question de trafic de prostitution, enfin, si je ne l'ai pas vu là depuis un moment, mais il me semble. Et il mélange comme ça des univers qui me semble pas si courant dans le cinéma de genre italien, hein, qui sont très quand même attachés. Quand on fait un giallo, on fait un giallo. Quand on fait un poliziotesco, on fait un poliziotesco. Et là, c'est vrai que le film part dans direction un peu étrange, en fait, hein, abordant en fait plusieurs sous-genres comme ça.
Écoutez Emmanuel Le Gagne, intervenant dans les bonus de La Vénus en fourrure sortie chez Artus Film, au micro de Culture Prohibée.
J- j'ai relu donc le livre juste avant de faire les bonus, hein, et que c'est un livre qui n'est pas très érotique en fait. Hein, je trouve que c'est un livre qui est même très intellectuel, qui est influencé par les philosophes de l'époque. Voilà, c'est... Moi j'ai trouvé que c'était assez passionnant à lire, mais comme un jeu de piste mentale, c'est très rhétorique sur des échanges verbaux. Et ça, bon, évidemment, dans le film de Massimo Dallamano, ça n'y est pas du tout. Hein. Le film, il s'empare en fait. Il est plus le reflet d'une époque des années fin 60, hein, début 70, qu'une adaptation, du moins dans l'esprit du roman de Sacher Masoch. D'autant, alors même si il en reprend quand même les principaux éléments de l'intrigue.
Bah d'ailleurs, bon. On sent bien, oui, il reprend les principaux éléments de l'intrigue et puis en les modernisant, mais on sent bien aussi que, je pense qu'il est comme tout le monde, tout le monde le dit, hein, il y a la costumière qui est interviewée dans les bonus du DVD et tout ça, enfin du Blu-ray DVD. On sent aussi que Dallamano, il est sous le charme de son actrice principale, c'est-à-dire que c'est aussi la révélation de Laurent Antonelli qui d'ailleurs fera une belle carrière derrière Laurent Antonelli. Et c'est vrai qu'il y a cette dans les bonus, il y a cette cette décoratrice qui est aussi d'ailleurs costumière, qui est aussi actrice, qui a fait plein de choses dans sa vie, et qui raconte qu'elle avait l'impression de voir une divinité tellement elle était d'une beauté elle dit même dans le bonus la taille est au-dessus. C'est assez drôle. Et c'est vrai que je pense que le film doit beaucoup aussi à Laurent Antonelli, parce que bon, l'acteur principal, Régis Vallée, il est assez fade, mais elle apporte vraiment quelque chose au film, quoi. Elle a des expressions dans le visage ça, qui sont assez étonnantes. On n'en attendait pas forcément de ça, d'un film qui est un peu vendu comme un petit film provocateur, un film érotique, comme il s'en produisait en fin de compte plutôt beaucoup. Et en fin de compte, ça va être un film qui va aller bien au-delà de ce petit statut.
Alors moi, j'ai jamais trouvé que Laurent Antonelli, c'était une grande actrice. Mais par contre, et là, dans le film, c'est particulièrement prégnant, elle dégage quelque chose, une aura, elle a dans le regard quelque chose d'assez troublant, comme si elle était à la fois présente et absente du film, comme si elle était des fois ailleurs et pourtant elle est là. Et c'est vrai que c'est un peu l'attraction du film, hein, qui est en fait, c'est un film érotique assez typique de son époque et qui est quand même magnifié par sa mise en scène, parce que je trouve que la mise en scène de Dallamano, elle prend très au sérieux finalement un matériau qui est très léger. C'est-à-dire qu'il fait, on a presque l'impression quand on assiste au début du film qu'on va avoir affaire à un giallo justement. Or pas du tout. Quand il explique quand il était enfant, il regardait par le trou de la serrure ce que faisait la bonne en fait.
Oui c'est ça.
Ouais. C'est la bonne. Voilà. Et on a presque l'impression que là, il reprend des tropes du giallo comme ça, par-ci par-là, et c'est filmé un peu de cette manière-là. Donc, moi, je trouve que le film est très séduisant, en partie pour sa forme.
Ah, on est d'accord. Bon, puis la scopophilie, c'est quelque chose qu'il y a dans tous les films, en plus de Dallamano. Bah, vraiment, la question du regard et le voyeurisme, même dans Bandidos. Mais en plus, là, tu as raison, c'est la mise en scène, hein, qui fait la différence. Et il y a, moi, je me rappelle aussi de cette scène qui m'avait marqué à la première vision. C'est la manière dont il va briser le quatrième mur, où le spectateur devient Séverin, et à un moment, il y a un homme assez bourru qui rentre dans la vie de Laurent Antonelli, et qui va carrément brutaliser la caméra, et donc par là même, brutaliser le spectateur. Je trouve qu'en termes de mise en scène, enfin, on voit bien que Dallamano cherche tous les artifices de mise en scène pour justement donner de la vie à un script qui, effectivement, comme tu le dis, est un script pas extraordinaire.
Surtout quand le troisième personnage arrive, on voit où il va en venir. C'est finalement pour nous dire, il parle plus du tout de sadomasochisme quelque part, hein, qui est juste là comme élément de décoration finalement. Hein. Il parle d'une impossibilité d'une relation amoureuse à trois, et de montrer que quoi qu'on fasse pour pimenter un peu notre sexualité, la jalousie reprend le dessus, que rien ne vaut d'être à deux, même si l'épilogue qui termine d'ailleurs par un grand éclat de rire, on peut se dire que tout cela est, enfin, qu'il est un peu ironique aussi là-dessus en fait, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça un peu gentiment puritain. Et et voilà, c'est aussi ça rejoint en fait certains de ces films qui avaient toujours ce discours ambivalent en fait entre un côté très émancipateur et un côté moralisateur.
Mais sans doute ce qu'avait pas prévu dans la mano, par contre, ce que vous expliquez un peu dans les bonus, puis j'en terminerai là-dessus, ce sera ma dernière question, mais c'est l'accueil que la censure va réserver au film, parce qu'en fin de compte, ce film qui peut nous paraître aujourd'hui assez anodin, va être incroyablement mal reçu par la censure, la sortie va être différée, va y avoir une autre version du film, enfin c'est quand même une trajectoire assez particulière que va connaître ce film.
Il sort en 69 en Italie, il est retiré tout de suite de l'affiche et il ne ressortira qu'en 75 et dans une version tronquée en fait. Alors une version tronquée, moi je ne l'ai pas vue, mais il ne doit plus rester grand chose à mon avis, hein, parce que c'est pas non plus, c'est un film érotique quand même gentil et même il n'y a quasiment pas de nudité intégrale. Enfin, on reste sur les canons, on va dire, du cinéma érotique d'avant 70. Alors oui, ça peut paraître étonnant, mais faut savoir que l'Italie en 69 était ultra puritaine. Je ne sais plus, à partir de 72-73 qu'on a commencé à qu'il y a une certaine libéralisation sur le plan cinématographique, mais avant c'était quand même assez la censure elle était assez importante. Et en France, lui, il sort par contre en septembre 73. Et j'étais tombé sur une notule dans l'écran qui en parlait comme un spaghetti choucroute porno. Voilà.
Oui, parce qu'on ne le dit pas, ça se passe un peu en Espagne, mais ça se passe aussi en Autriche. Donc,
oui, voilà.
Sans doute la référence.
C'est une coproduction, je crois, entre l'Allemagne, la France et l'Italie, et peut-être même l'Espagne. Alors, ouais. Voilà, comme avec le jeu des productions de l'époque.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Autre film, autre ambiance. On va sauter quelques années. On est en 1985. On est chez Claude Miller. Claude Miller, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, hein, vous savez, hein, qui a travaillé avec Truffaut d'ailleurs, et qui d'ailleurs là met en image un scénario qui aurait pu être un scénario, enfin qui aurait pu être mis en image par Truffaut et dont Miller s'empare. Ce film, c'est L'Effronté, avec Charlotte Gainsbourg, qui va être une véritable révélation. Hein, c'est Charlotte Gainsbourg interprète Charlotte, plus simple comme ça. Voilà, une jeune adolescente de 13 ans qui a beaucoup de mal à s'intégrer dans son collège, qui est même victime à un moment d'une humiliation collective pendant le cours de sport. Et en sortant du vestiaire, elle est comme hypnotisée par un concerto de piano qu'une autre classe est en train de visionner sur un téléviseur. Et la pianiste virtuose doit venir jouer dans les parages dans les jours à venir. Et donc, elle entreprend une quête pour aller voir ce concerto absolument, parce qu'elle est complètement subjuguée par la beauté de ce concerto. Alors, moi, vous savez que je pense que Claude Miller, c'est un réal un peu oublié malgré tout, hein, même si il est mort il n'y a pas longtemps et qu'il a fait tout un tas de films passionnants qui passent encore régulièrement. Par exemple, Garde à vue. Enfin, je pense que Garde à vue, c'est le grand classique de Claude Miller. Mortelle randonnée, qui est très bien aussi, dont on a parlé, parce qu'ils sont sortis également chez Rimini. Et là, Rimini ressort donc L'Effronté. Et ce réalisateur donc sous-estimé, l'un des plus passionnants, je trouve, du cinéma français. Et il y fait preuve d'une grande maîtrise formelle. Hein. Il reprend donc un scénario des proches de l'univers truffaldien. Charlotte Gainsbourg, elle est, s'est effrontée de 13 ans. Elle est un peu mal dans sa peau, elle est, comment dire, mais il y a quelque chose dans sa personnalité qui fait qu'elle tombe sous le charme de cette soliste qu'elle veut absolument voir en concert, et on ne peut pas voir ce film sans se dire que le personnage de Charlotte, c'est un pendant féminin en fait à Antoine Doinel, et que de ce fait, on a, dans Antoine Doinel, qui était un mauvais, ce qu'on appelait un mauvais garçon dans les 400 coups, mais qui était en fait plutôt un petit gamin un peu paumé, quoi, va là être incarné dans cette Charlotte qui va faire des bêtises, hein, quand même. Hein, voilà. Et comment. En fin de compte, le film s'avère, c'est très étonnant, parce que, en fait, c'est un réalisateur protéiforme, Claude Miller. Il a même tâté un peu de l'érotisme avec le sourire, il a tâté un peu avec la, je crois que ça s'appelait La Classe de Neige, avec l'horrifique, même le gore. Hein. Il a fait beaucoup de choses, Claude Miller. Il a fait quelques très grands films, hein, comme La meilleure façon de marcher avec Bouchité et Devers, et, qui était d'ailleurs un premier film très remarqué. Et là, en fait, il signe un des films les plus réussis sur l'adolescence, et, qui pourtant est très différent du reste de sa filmo. Et c'est un film dans lequel on a vraiment la force du film. C'est qu'il a, il prend bien en compte ces bouleversements qu'on ressent à l'adolescence, où les choses sont à la fois graves et légères, en fait. Donc, et le film est à la fois grave et léger, donc ce qui lui confère un ton assez unique. Et à l'image, en fait, du décalage qui est savamment entretenu, hein, par le réalisateur, qui mélange du coup les musiques, deux musiques qui sont parmi les musiques. Préféré de Charlotte, à savoir le fameux tube Ça rappelle Katie Amo de Ritchie et Poveri, qui est un tube international, et le concerto pour piano numéro 11 de Mozart, qui est aussi le morceau dont elle tombe amoureuse. Voilà, dont elle tombe amoureuse, pardon. Et donc, l'effronté, au final, c'est un excellent film, qui est atypique dans la carrière de Miller. Et on remercie donc Rimini Édition, qui le met à l'honneur dans un coffret d'une. Avec une copie d'une beauté assez sidérante. Autre film, autre ambiance, on est en 91. Un film un peu particulier, In Bed with Madonna, un film qui sort là chez Bubble Pop, un film d'Alex Kechichian. On sait que l'un des deux fondateurs de Bubble Pop, Rania Griffith, est une fan de Madonna, donc je pense que c'est pour ça qu'on a eu Recherche Suzanne désespérément, qui était d'ailleurs une bonne surprise de le revoir, et qu'on a là ce In Bed with Madonna qui sort dans une très belle édition, avec une interview d'Olivier Cachin, qu'on salue, hein, qui était déjà venu dans cette émission, on avait parlé hip-hop ensemble. Il y a aussi une interview de l'attaché de presse lors de la sortie du film, Michel Bernstein, une interview de Jérôme Brucker de Warner Music, pour un peu expliquer tout ce qui est ce phénomène qui est Madonna quand même. Est-ce qu'elle a été? Parce qu'aujourd'hui, peut-être Madonna, on connaît moins. Les générations d'aujourd'hui sont peut-être moins au fait de Madonna, qui est quand même plus discrète aujourd'hui, même si elle a encore une certaine importance. Hein. Elle est beaucoup citée, elle est beaucoup samplée, mais elle est moins présente. Elle a une production aujourd'hui beaucoup moins importante. Hein, voilà. Et à l'époque de ce film-là, vraiment, Madonna, elle est au summum de ce qui peut être une icône pop. C'est la reine de la pop mondiale, hein. Faut dire les choses. Et c'est aussi un personnage sulfureux. Et à l'époque, elle commence même à jouer dans des films. Elle joue avec son compagnon de l'époque, Warren Beatty. Warren Beatty, qu'on voit, hein, dans le documentaire. Là, et là, on est sur la tournée internationale de 1990. Qui, je crois, s'est terminé en France, d'ailleurs, a dû se terminer à Nice, et qui débute au Japon pendant la saison des pluies. Alors, elle va aller à Los Angeles, elle va faire Détroit, Toronto, New York, et on la voit au quotidien avec ses danseurs, son équipe, je vous l'ai dit, un peu Warren Beatty. Et l'ambition de Kechichian, en fait, c'est de réussir un film où on rentre dans l'intimité. Alors, c'est très difficile avec Madonna de savoir ce qui est de l'ordre de l'intimité, de l'ordre du calcul. C'est une grande provocatrice et à l'époque, elle l'était encore plus. Hein, on rappelle que ce qu'on voit dans le film, d'ailleurs, ces simulations de masturbation sur Like Virgin vont entraîner le fait qu'il y ait des flics partout pendant ses concerts pour interrompre ses concerts. À certains endroits, on ne veut pas la laisser jouer. Enfin, ça, on le voit dans le film. Elle dégage une aura sulfureuse. On peut voir d'ailleurs des extraits de concerts dans ce documentaire au Palais Omnisports de Bercy en 86, de Paris-Bercy, ce qui est assez rigolo. On se rappelle qu'à l'époque, même la Madonna Mania était si forte
que même Chirac s'était mêlé, Jacques Chirac s'était mêlé du débat quand même. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec l'histoire du fait qu'elle jetait sa petite culotte dans le public, tout ça. Enfin bon, il y avait tout un délire autour d'elle. Et puis après, il y a la musique quand même, hein, parce qu'elle a aussi... elle a imposé quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui chez des pop stars comme Beyoncé, et ça, c'est-à-dire des chansons émancipatrices avec des messages cachés. Et qui ne sont pas très compliqués à déchiffrer, mais néanmoins, ça permettait de passer les fourches caudines de la censure et de parler de libération de la femme, de sexualité, assumée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est une véritable icône, hein, y compris de la communauté LGBTQ+. Parce que le backstage, c'est toujours en noir et blanc. Et on voit ses prières rituelles avec son équipe, avec ses danseurs. On voit ses rapports presque fusionnels, hein, avec certains membres de son équipe. C'est assez étonnant. Et on est bien, dit le titre In Bed. Alors nous, on n'a pas gardé Proof or Dare, qui était le titre qui va très bien aussi, hein, le titre américain. Nous, on a gardé In Bed, qui est un titre un poil plus provoque, j'ai envie de dire, et qui est bien dans le ton en fait de cette époque, durant laquelle Madonna, jusqu'à la surenchère en fait, a joué la carte de la provocation. Prolongeant le geste quelque part d'un Helmut Newton, hein, elle est, on peut le dire aussi, l'une des pionnières du porno chic qui va arriver après avec Sex, tout ça, enfin qui va, ça va vraiment marquer son époque. Et comme je le disais tout à l'heure, tout en étant à la fois une figure emblématique de communautés réprimées sexuellement et des minorités aussi. Donc c'est ce qui en fait un personnage, une personne, une personnalité, voilà, particulièrement passionnante et un exemple de pop star parmi les plus marquantes de toute l'histoire de la musique pop américaine, hein, voilà, je pense qu'on peut dire que il y a eu elle et il y a eu Beyoncé après. Il y a pas beaucoup d'artistes qui ont un tel poids, et parce que bon, je veux dire, tout le monde connaît Beyoncé même sans avoir écouté ses chansons, tout le monde connaît Madonna même sans avoir écouté ses chansons. C'est des gens qui ont complètement marqué leur époque et qui l'ont marqué sur des décennies quand même. Donc c'est pas des petites carrières, pas marqué le temps d'un titre, le temps d'un, voilà. Donc en tout cas, ce film là, In Bed with Madonna, d'Alex Kechichian, disponible chez Bubble Pop, donc dans une très belle édition, et à revoir, parce que je le trouve bien meilleur qu'avec le recul. On le voit d'une manière tout à fait différente de la manière dont on l'avait reçu à l'époque, où on pouvait le prendre presque comme un outil promotionnel pour Madonna. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça, en fait. C'est vraiment, on décortique ce qu'est un phénomène pop à travers le fait d'essayer de percer son intimité. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Vraiment, un documentaire intéressant.
Écoutez Culture Prohibée spécial portrait de femme.
Laisser mes camarades, parce que la même année sort un film là qui ressort chez BQHL dans une superbe copie 4K, avec même son final, la version alternative du final, hein, que je pense vous connaissez tous l'histoire, hein, c'est-à-dire que il y avait Suzanne Sarandon et Gina Davis. On sait comment ça se termine pour elle à la fin de Thelma et Louise, puisque c'est de Thelma et Louise de Ridley Scott qu'on va parler. Il faut savoir que Gina Davis en fait devait être jetée de la voiture par Suzanne Sarandon et donc survivre. Et c'est Gina Davis qui elle-même a insisté pour être restée dans la voiture. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on voit dans les bonus. Parmi tous les bonus qu'il y a, moi je vous conseille tout particulièrement. Alors il y a cette scène finale, donc c'est commenté par Ridley Scott, mais c'est de regarder le bonus qui dure assez longtemps, hein, qui dure presque une heure, de Gilles Panceau,
qui décortique le regard de Tony Scott. C'est passionnant. Mais je vais vous laisser, les amis, j'ai déjà assez causé comme ça. Je vais vous laisser parler de Thelma et Louise.
Alors, Thelma et Louise, c'est le sixième film de Ridley Scott. Il avait déjà fait un duo historique qui s'affronte avec Le Duelliste, qui est son premier film. Mais là, c'est intéressant parce qu'il nous sort un nouveau duo, un double portrait féminin qui vont s'associer au cours d'un long métrage d'émancipation, comme tu l'as annoncé, Jérôme. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il reprend un peu les codes du road trip, c'est-à-dire que c'est vraiment en parcourant la route américaine qu'au fur et à mesure, elles vont gagner en liberté. Donc, il associe finalement ce lien assez classique de la conquête vers l'Ouest, cette fois avec nos deux autostoppeuses qui, cette fois, ne gagnent pas leur liberté en allant vers l'Ouest, mais en essayant de s'échapper pour aller vers le Mexique. L'histoire, de base, elle est assez simple. De base, Thelma et Louise étaient partis pour avoir un week-end sympathique entre elles pour se reposer et s'amuser, sauf que Louise va tuer par accident un homme, enfin par accident, non, parce qu'il le mérite un peu, tuer l'homme qui a agressé Thelma, et les deux femmes vont alors s'enfuir. Ce qui est intéressant, c'est non seulement dans la façon dont elles vont se libérer, déjà le portrait de base, vu que Thelma est présentée comme une femme au foyer, un peu refermée sur elle-même, alors que rapidement c'est elle qui exprime le plus de désir de liberté, alors que Louise, qui est mise comme une servante endurcie, va être celle qui va être plus qui va moins aller justement en quête de ses libertés, qui va essayer un moyen de s'échapper de ça, alors que c'est elle qui initie le coup de feu. C'est des portraits qui vont au fur et à mesure s'allonger, et ce qui est intéressant, c'est que certes on a le portrait de ces deux femmes, mais on a aussi le portrait d'un monde patriarcal juste à côté, où aucun homme finalement est sauvable. Même le détective qui est là et qui est certain qui peut les sauver, bah dès qu'on fait une blague graveleuse, il rigole avec tout le monde. Il a un peu en fait ce côté syndrome du docteur, dans l'idée qu'il est capable de les sauver, que lui, il va réussir, que les autres, eux, ils n'y arrivent pas, mais que lui, il peut être leur moyen d'émancipation.
Je trouve qu'il y a des passages vraiment drôles, et il y a ce travail sur la photographie. Alors la photographie est plutôt grise, métallique pendant une bonne partie du film. Au fur et à mesure qu'elle s'avance vers le Mexique, elle devient de plus en plus chaude. Et puis bon, et bien sûr, il y a les paysages qui apparaissent. Hein, on sort de la ville, donc il y a toute cette imagerie par rapport à l'émancipation. Et donc c'est un film qui est drôle aussi. Il y a ce passage avec le Rasta là qui trouve le flic. Dans la voiture, il y a la façon dont le flic joue les durs, et puis après il pleure comme un gamin. Et il y a surtout ce passage avec le camionneur qui même fait beaucoup rire, ou qui revisite un peu l'imagerie du western, donc là cette fois la sauce féminine. Et c'est vrai que pour un Ridley Scott, c'est un film un peu à l'époque, c'est plutôt étonnant pour dans la filmographie de Ridley Scott. On s'attend pas à voir un tel film portrait fait de femmes dans sa filmographie à cette époque. Et c'est aussi donc c'est vrai que c'est l'histoire d'une émancipation aussi, c'est l'histoire d'une femme qui, incarnée par Gina Davis, qui finit par prendre son plaisir, donc le plaisir sexuel qu'elle n'a pas avec son mari, qui est quand même assez caricatural, hein, le gros beauf qui bouffe des pizzas devant des matchs de foot et puis qui s'occupe pas d'elle, quoi. En tout cas c'est un bon film à redécouvrir pour ceux qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas revu depuis longtemps.
Ce que tu dis, Thomas, c'est aussi abordé un peu dans les bonus, hein, de redonner aux femmes leur dignité par Marion Guillou. Donc, enfin bref, c'est une très belle édition que nous sort BQHL avec un 4K magnifique qui s'y est parfaitement, donc au cinéma de Ridley Scott, donc Thelma et Louise, qu'on peut revoir. Je vais faire un petit bond dans le temps. Moi, je vais aller en 2019 et je vais vous parler d'un film qui est sorti là chez Extra Lucid Film. Un film que j'aime beaucoup, que j'avais découvert par le biais des plateformes et qui est pour moi injustement méconnu. C'est un film qui s'appelle Bliss. C'est un film de Joe Begos, un film de 2019, donc il a déjà quelques années. C'est un vrai film d'horreur, comme on en voit quand même assez peu, je veux dire, de ces dernières années. Et c'est un film qui rigole pas, quoi. C'est un film avec Dora Madison Burge. Alors, Dora Madison Burge, elle se fait appeler parfois Dora Madison, elle se fait appeler parfois Madison Burge, mais c'est la même actrice. C'est une actrice de télé, surtout, et qui a joué... à la limite, un de ses trucs les plus connus, c'est d'avoir été la fille de Masuka dans Dexter. Mais c'est pas une actrice super connue. Et en fait, elle va rencontrer, c'est ce que nous explique Laurent Duroche dans les bonus. Alors, il y a deux, il y a, dans les bonus,
Il y a ce qu'il faut de bonus, il n'y en a pas des masses, mais ils sont tous pertinents. Il y a la bande-annonce, évidemment. Il y a une scène coupée qui explique les origines d'un duo avec qui elle fraye pendant tout le film, mais qui a été enlevé du film, et c'est pas plus mal, il a bien fait de l'enlever. Et puis, il y a une présentation de Laurent Duroche. Et Laurent Duroche, il explique bien dedans ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque où Joe Bégos fait ce film-là, il vient de faire deux films. Il vient de faire Almost Human et The Mind's Eye, qui sont des films qui ont bien marché dans les festivals, mais qui sont des films ultra référentiels, fauchés, où il a très bien conscience de faire un cinéma d'aficionados pour des aficionados, et où il trouve qu'en fait il ne s'exprime pas lui-même et qu'il fait du sous-Cronenberg. Voilà. Donc, il rencontre à ce moment-là cette actrice, Dora Madison, et Dora Madison, elle a un parcours particulier. Elle a quitté une école chrétienne pour s'engager dans le. C'est-à-dire qu'elle est passée du tout au tout, hein, surtout quand on voit ce film-là. Elle est passée de la foi en Jésus, en la foi dans le cinéma. Elle a quitté en fait tout ce monde-là, elle a tout laissé derrière elle. Elle a décidé de devenir actrice. Voilà. Donc, et arrivée là, les deux se rencontrent à ce moment-là et elle devient l'alter ego de Joe Bégos dans ce film, qui en fait dénonce un peu ses conditions de travail, sa manière de travailler, ses complications, le fait de travailler dans les petits budgets et tout. Voilà. Et ça va donner le meilleur film de Joe Bégos. Après, il va faire VFW, qu'on peut trouver assez facilement, qui est sorti en DVD à pas cher, tout ça. Enfin bon, bref, ce sont plutôt des films rigolos avec Fred Williamson, tout ça. Mais c'est plutôt et Stephen Lang, c'est plutôt des films sympathiques, mais des petites séries B référentielles, quoi. Et celui-là, il vient comme détonner au milieu de sa filmographie. Culture prohibée.
You started painting again.
Well, shit, Des, that's great.
I don't know, something came over me and then it all just started pouring out of me. I don't even remember doing it.
Like you blacked out?
It was like I was possessed.
Well, what did you paint?
Le film démarre par, un générique qui est conçu par un artiste qui s'appelle Chetzar. Alors Chetzar, il fait aussi une peinture qu'on voit dans le film qui est magnifique, parce que le réalisateur ne voulait pas, souvent quand on fait un film sur un artiste, parce que c'est l'histoire d'une artiste, hein, l'héroïne qui est campée par Dora Madison, qui s'appelle Des, elle n'arrive plus à trouver l'inspiration. Voilà. Et c'est l'histoire de cet artiste. Et cet artiste, en fait, souvent dans les films où il y a des artistes, c'est vrai que l'œuvre qui est produite dans le film, elle n'est pas terrible. Et lui, il voulait qu'il y ait une vraie belle peinture. Donc il va chercher cet artiste qui dit oui, qui est plutôt un artiste disons, qui fait des pochettes d'albums et tout. Et il emmène le spectateur dès le début dans un univers à part. Parce que le film se passe à Los Angeles. Et pourtant, on a l'impression que c'est presque new-yorkais, puisqu'on a un générique qui ressemble beaucoup au tag que pouvait faire un Basquiat, par exemple. Basquiat, décidément, très à la mode, puisque Basquiat, qui était aussi un peu réhabilité, via un des personnages du Spider-Man dans le multiverse, en animation, qui a été rapproché du punk aussi dans ce film. Et là, on le rapproche du punk, puisque Joe Bégos, lui, il va nous donner à voir la ville de Los Angeles, mais son côté punk. C'est-à-dire celui qu'on montre jamais. Qu'on monte plus souvent pour d'autres villes. Et là, en fait, il va mélanger donc punk et street art, ce qui ne ressemble pas du tout d'ailleurs à la peinture que va faire l'artiste du film, Des, campé par Dora Madison. Et il va nous donner un film qui va effectivement lorgner du côté des cinémas d'Abel Ferrara et William Lustig. William Lustig est étonnamment jamais cité. Pourtant, il y a bel et bien une scène qui cite William Lustig à quelques minutes de la fin du film. Je veux dire, ça paraît tellement évident. Mais bon, je ne sais pas, il est souvent oublié. Et on rappelle quand même que Lustig, c'est quand même aussi un cinéaste qui a très bien filmé la ville. Il faut revoir Maniac, hein, parce qu'il y a une scène vraiment qui cite Maniac. Et puis, effectivement, on est beaucoup chez Ferrara. On sent que Driller Killer, L'Ange de la Vengeance sont des films qui, plastiquement, ont beaucoup intéressé Joe Bagos. Mais c'est aussi un film très personnel du fait de cette héroïne, Dez, qui est son alter ego féminin. D'ailleurs, elle lui piquait ses t-shirts pour jouer dans le film. Et ça va donner donc un film très particulier, où il y a beaucoup aussi d'errance en voiture dans Los Angeles, très cinégénique, qui vont basculer, parce que c'est aussi un film de vampire, de séquences diurnes aux séquences nocturnes, donc ça donne aussi un côté très lynchien, sur une musique très planante, parce que le film est d'ailleurs très tripant, hein, consommation de dope oblige, et on va avoir donc un film qui va être très sexe, drogue and rock'n'roll. Il y a du lesbianisme, il y a du triolisme. On est un peu dans des scènes qui peuvent rappeler les prédateurs de Tony Scott. Et la caméra est virevoltante. Elle adapte sans cesse l'état d'esprit de l'héroïne, Dez. Il y a aussi, ce qui fait bien plaisir, des effets en live, de la stop motion. Il n'y a pas de numérique dans le film. Enfin, en tout cas, pas d'effet numérique flagrant. Il y a un sound design qui est incroyablement travaillé aussi. La dernière demi-heure est une catharsis érotico-gore, parce que le film est très sensuel, très érotique, hein. Une catharsis érotico-gore durant laquelle Dez se libère de toutes ses entraves au sens, dans tous les sens du terme, voilà, et elle devient une vampire, parce que c'est question de se transformer en vampire aussi par le biais des drogues, l'addiction, voilà, une vampire, une sainte qui gagne l'éternité de par sa contribution à l'histoire de l'art, puisqu'elle va faire partie elle-même de son œuvre d'art, voilà, c'est une belle idée de mise en scène, et donc c'est le meilleur film de son auteur, tant dans son scénario que dans son esthétique. L'exceptionnelle qualité pour moi de ce petit bijou de film bis tient également pour beaucoup dans la performance de Dora Madison. Elle est belle, incandescente, physique. Le rôle est très exigeant. Il n'y a pas beaucoup d'actrices, je pense, qui se seraient autant mis en danger. Et plus que le rapprochement entre la drogue et le vampirisme, le film fait un parallèle entre la créativité, et la défonce, qui s'accompagne même d'une certaine plénitude sexuelle. C'est assez étonnant, et donc en cela, à travers le portrait d'une artiste en panne d'inspiration qui assume tous ses choix, Bliss délivre un message beaucoup plus transgressif qu'il n'y paraît. Son héroïne assume et accepte sa nature, et c'est un des meilleurs films horrifiques indépendants US de ces dernières années, je crois que c'est indéniable. Donc ça s'appelle Bliss, c'est de Joe Bagos, on vous le recommande, c'est chez Extra Lucid Film. Donc on va passer d'Extra Lucid Film à Blackout, hein, c'est un peu un blackout d'ailleurs, c'est pareil dans Bliss, hein, puisqu'on passe du jour à la nuit, pour vous parler d'un film de Simon Bouisson qui s'appelle Drone, un film de 2024. Les amis, je vous laisse parler de Drone, hein, qu'on a tous vu, hein, qu'on a apprécié à divers niveaux, mais qui est un film qui traite, qui est lui aussi un portrait de femme, hein, mais portrait de femme un peu à son insu, puisque c'est une femme qui s'aperçoit qu'elle est filmée continuellement par un drone et qui comprend pas ce qui lui arrive, une jeune élève d'une école d'architecture et tout, et qui se met à être filmée par un drone et qui se met à rentrer là dans une sorte de thriller un peu à la De Palma, voilà. Enfin, je vous laisse un peu causer du film, j'ai déjà bien assez causé.
La mise en scène, justement, elle prend un peu le pli de ce drone. La caméra est très mouvante, comme si le drone était quasiment toujours là, en fait, hein, toujours en train de la filmer. C'est un film, c'est pas seulement un film sur le portrait de femme, hein, même si on la suit tout le temps, etc. Mais c'est aussi un film sur le portrait d'une société. Une société où les relations entre les individus sont dématérialisées, ni plus ni moins. Parce que finalement, c'est un film que je mets aussi en parallèle avec un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, Companion, un film de SF, qui parle justement de cette solitude, de la solitude de l'homme, en fait. Hein. C'est la solitude de l'homme, de ces fameux incels, hein, qui ont commis des meurtres et des massacres, par exemple aux États-Unis, dans des établissements où il y a du public. Et là, on parle de ces hommes, de ces fameux incels qui sont solitaires et qui se contentent de plaisirs solitaires également, en étant des voyeurs, en objectifiant la femme quelque part, parce qu'il s'agit de ça aussi. C'est un film qui montre que la société actuelle, par le virtuel, objectifie la femme. Et effectivement, après, on tombe dans le thriller, comme tu as dit, hein, plutôt Brian De Palma. On pense à Fenêtre sur cour, hein, l'introduction, le générique, hein, c'est ni plus ni moins qu'une référence à Fenêtre sur cour, parce que le drone, il cherche sa proie, en fait. Il cherche qui va filmer, qui va suivre. Et il y a aussi, au départ, quelque chose d'assez vicieux, parce que finalement, elle commence à jouer avec le drone, cette jeune femme. Parce que vu qu'elle est habituée quand même à s'exhiber sur le net pour pouvoir gagner un petit peu de sous face à des hommes seuls, et qui parfois elle peut nouer un semblant de complicité. Il y a à un moment, il y a une scène où on voit que il y a un petit dialogue qui se fait avant avec l'un de ces hommes là. Mais donc elle va nouer une sorte de lien étrange avec ce drone. Elle va jouer avec lui avant que ça finisse par déraper, parce que il est aussi question de jalousie quelque part. Hein, oui. Le drone aussi, il est très ambigu. Est-ce qu'il la protège ? Est-ce que justement, où est-ce qu'il est jaloux ? On ne sait pas trop jusqu'à la révélation finale qui nous montre un peu dans quelle société on vit actuellement.
Je reviens sur le portrait de la jeune architecte qui est dans le film. Donc, elle s'appelle Emily. Je ne sais pas si c'est pour faire une référence à Emily in Paris, mais je ne crois pas. Ici, c'est Marion Barbeau qui la joue. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, Thomas, c'est qu'en fait, toutes les relations qui sont présentées dans le film, c'est quasiment des relations économiques. C'est-à-dire qu'elle est une jeune étudiante en argile, elle propose son projet, ben, la personne qui s'occupe du cours va l'apprécier, va la récupérer. Il va la récupérer pour son entreprise, pour avoir un bien économique. La raison pour laquelle c'est une cam girl aussi, c'est très vite mis en avant, c'est parce que ben, c'est une étudiante en architecture. Elle vient d'arriver à Paris, avant elle était à Lille ou à Amiens. En tout cas, elle était dans une autre ville. Et en fait, elle ne peut pas avoir de bourse parce qu'elle a touché beaucoup trop d'argent par rapport à l'année dernière. Donc le seul moyen qu'elle puisse avoir un revenu, c'est le fait d'être cam girl, mais on sait que c'est un revenu qui n'est pas suffisant justement pour rester dans Paris. C'est pour ça qu'elle relance sa cam. Relation économique aussi dans ses amitiés, où on sent qu'ils essaient de créer un noyau, non pas pour s'entraider, mais quand on regarde l'un de ses camarades pour essayer de prendre un avantage sur elle. Et même au départ, lorsqu'elle va entamer sa relation amoureuse, on la met en garde en disant bah, l'autre personne, elle n'est pas là pour un truc de sérieux. En fait, elle est là juste pour s'amuser. Donc, tu as toute cette force, toute cette relation économique qui est mise en place. Et le drone, il arrive dans ce moment-là où assez vite, on fait un lien entre le drone et le fait qu'elle peut gagner de l'argent encore plus facilement. Même si c'est assez dangereux au départ, elle va accepter justement parce qu'elle a besoin de cet argent afin de pouvoir continuer ses études. Donc c'est vraiment un film qui pose le portrait en fait, d'une étudiante qui galère au niveau économique et qui va essayer de faire un minimum pour pouvoir survivre. Sauf qu'au fur et à mesure que ça va avancer, bah, ça va très mal se passer.
On vous conseille donc vivement de voir Drone de Simon Buisson. C'est disponible, je vous le rappelle, chez Blackout. Et il faut se précipiter sur ce film qui va vous glacer l'effroi. C'est Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine!